Les informations avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Le socialiste italien David Sassoli, élu président du Parlement européen, il est pourtant loin de faire l'unanimité, nous dira Rosalie Lafarge. Nous reviendrons aussi sur le choix de Christine Lagarde pour prendre la tête de la BCE. Les marchés réagissent positivement à cette annonce. En Libye, au moins 44 migrants sont morts après un raid aérien près de Tripoli. L'émissaire de l'ONU évoque un crime de guerre, analyse de Christian Chesneau. Et puis Médecins du Monde s'oppose au brevet d'un traitement anticancéreux. Tara Schlegel nous expliquera pourquoi. Le Parlement européen a donc un nouveau président. Le socialiste italien David Sassoli a été élu au deuxième tour. Il succède à Antonio Tajani, PPE, pour un mandat de 2 ans et demi. Candidat surprise à ce poste, il siège depuis 2009 au Parlement de Strasbourg, Rosalie Lafarge.
Et il est loin de faire l'unanimité, David Sassoli. Certes, il obtient la majorité absolue dès le deuxième tour et devance largement ses adversaires.
Il presidente.
Mais c'est surtout grâce au soutien du PPE, le groupe le plus large de l'hémicycle ne présentait pas de candidat et a décidé de se rallier à la candidature de l'Italien après l'attribution de la présidence de la Commission à l'une des siens. David Sassoli est donc élu, mais sans un enthousiasme démesuré, même chez les socialistes, où les débats ont été houleux. Hier soir, reconnaît Aurore Laluc, élue sur la liste PS Place Publique.
Il y avait un débat effectivement assez engagé, mais je trouve ça sain. C'est quelqu'un qui est apprécié globalement, bien sûr. La difficulté, c'est qu'il arrive à un moment où on aurait aimé que les choses se fassent différemment. Voilà. C'est vrai que là, tout le monde a été un petit peu assommé quand même par cet accord hier.
À peine élu, le nouveau président du Parlement européen appelle à relancer le projet d'intégration, à faire évoluer l'Union pour la rendre plus réactive aux exigences des citoyens. Mais avant de s'attaquer au fond des sujets, le Parlement européen a encore quelques réglages de forme à boucler. Il doit notamment valider ou non le choix d'Ursula von der Leyen pour présider la Commission européenne. L'Allemande, proche d'Angela Merkel, doit recueillir la majorité absolue des eurodéputés pour être confirmée dans ses fonctions. Et côté socialiste et démocrate, vert, extrême gauche et extrême droite, on n'est pas du tout sûr de lui donner cette majorité absolue. Malgré tout, on dit ici à Strasbourg que l'élection de Sassoli à la présidence du Parlement devrait faciliter la validation de von der Leyen à la Commission. C'est ce qu'on verra au moment du vote prévu dans 15 jours.
L'accord sur les 4 plus hauts postes de l'exécutif européen est le fruit d'un compromis franco-allemand. C'est d'ailleurs la Française Christine Lagarde qui quitte le FMI pour prendre la tête de la Banque Centrale Européenne. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Même si Christine Lagarde n'a pas vraiment le profil attendu, ça n'est pas une technicienne de la politique monétaire, les marchés ont réagi très positivement quand ils ont appris qu'elle remplacerait Mario Draghi en novembre.
Oui, Christine Lagarde n'a encore rien fait ni rien dit depuis sa nomination, mais cela a déjà eu un effet sur les marchés financiers. La Bourse de Paris a légèrement grimpé et surtout les taux auxquels les pays européens financent leurs dettes, les taux souverains, ont plongé, notamment pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Alors pourquoi les marchés financiers ont-ils confiance en Christine Lagarde ? Eh bien parce qu'ils anticipent qu'elle poursuivra la politique de Mario Draghi, à savoir une politique monétaire accommodante, comprenez, avec des taux très très bas. Alexandre Baradez est responsable des analyses de marché chez IG France.
Pourquoi elle pleut au marché ? Parce qu'on se souvient que quand elle, il y a encore quelques trimestre, les tensions ont commencé à arriver entre les États-Unis et la Chine. Elle a invité à ce moment-là les banquiers centraux à rester accommodants. Elle a bien compris que ces tensions commerciales allaient faire ralentir l'économie mondiale. C'est ce qu'on voit en Chine, c'est ce qu'on a vu et qu'on voit toujours en Europe et qu'on commence aussi à voir aux États-Unis. Et le marché se dit, bah parfait, l'environnement monétaire va rester très favorable, donc ça génère quoi ? Ça génère un euro qui un petit peu baissier par rapport au dollar, et surtout ça fait baisser très fortement encore ce matin les taux souverains.
Alors Christine Lagarde n'est quand même pas la première banquière centrale à ne pas avoir de diplôme économique. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, est comme elle diplômé en droit. Son profil plus politique qu'économique n'est donc pas perçu comme un inconvénient. Au contraire, elle a aussi pour elle son expérience des crises, car de 2007 à 2011, quand elle était à la tête de Bercy, elle a connu la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, la crise des dettes publiques européenne, la crise de la Grèce, une expérience qui peut servir dans l'avenir.
Effectivement, merci Marie Viennot. L'émissaire de l'ONU en Libye qualifie de carnage le raid aérien contre un centre pour migrants hier soir près de Tripoli. Selon lui, cet attentat pourrait constituer un crime de guerre. Le bilan de la frappe est d'au moins 44 migrants tués et de plus de 130 blessés graves. Le gouvernement d'Union nationale, basé à Tripoli, accuse les forces du maréchal Haftar d'avoir mené une attaque préméditée. L'Union européenne a elle aussi condamné cette attaque. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Alors est-ce qu'après ce drame, on peut imaginer que le maréchal Haftar fasse une pause dans son offensive contre Tripoli ?
Écoutez, si arrêt des combats il y a ou pas, nous aurons la réponse dans les prochains jours. En tout cas, ce militaire intransigeant, voire obtus, semble vouloir aller jusqu'au bout depuis le début de son offensive commencée début avril. Le maréchal Haftar n'a pas caché que la prise de Tripoli était son objectif ultime pour réunifier la Libye post-Kadhafi. Quand ses troupes sont passées à l'offensive au printemps, il n'a pas prévenu ses alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et les amis devant le fait accompli. En coulisses, ses soutiens ont protesté, mais ont laissé faire. La question est donc de savoir si justement, après ce carnage, ils vont cette fois brider le général sur le plan militaire, notamment en termes de livraison d'armement, et l'inciter à entamer une véritable négociation avec son rival, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, pour une sortie de crise politique. Ce n'est pas évident du tout. Les Occidentaux et les pays arabes qui le soutiennent lui sont gré d'avoir nettoyé l'est de la Libye de la menace djihadiste et de s'inscrire dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Autrement dit, il est aujourd'hui difficile pour eux de lâcher le fougueux maréchal en pleine bataille, même si les condamnations pleuvent après le carnage du centre des migrants de Tripoli.
Christian Cheneau. Raymond Barre avait un compte caché en Suisse. À la mort de l'ancien Premier ministre en 2007, révèle Le Canard enchaîné, l'équivalent de près de 7 millions d'euros se trouvait sur ce compte. Une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale a été ouverte en avril 2016 à l'encontre de ses héritiers qui se battent aujourd'hui pour éviter un procès, Frédéric Saïs.
Oui, Raymond Barre était surnommé le meilleur économiste de France, chef du gouvernement austère sous Valéry Giscard d'Estaing, partisan d'une politique de rigueur budgétaire et de lutte contre la fraude fiscale. Écoutez, c'était le 5 octobre 1976.
La première démarche en ce domaine est de faire disparaître la fraude fiscale. Celle-ci crée des privilèges iniques auxquels les Français sont de plus en plus sensibles.
Or, voici donc que Le Canard enchaîné révèle l'existence d'un compte caché de Raymond Barre, un compte détenu au Crédit Suisse à Bâle, garni de 6 800 000 euros en 2007, à la mort de l'ancien Premier ministre. On ne sait pas quand ce compte a été ouvert. Les services fiscaux en découvrent la trace en 2013, alertés par un informateur, s'engagent des vérifications auprès des héritiers de Raymond Barre. Près d'un million d'euros de pénalités sont réglées, selon Le Canard enchaîné. Une information que nous avons pu confirmer auprès de l'avocat de Nicolas et Olivier Barre, maître Jean-Louis Renaud, qui s'étonne que le versement de ces pénalités n'ait pas mis fin aux poursuites judiciaires, car en parallèle, cette affaire, vous l'avez dit, est toujours instruite en ce moment même par le parquet national financier. Une information judiciaire a été ouverte le 29 avril 2016 pour blanchiment de fraude fiscale. Une double peine qui étonne l'avocat. C'est triste qu'on s'attaque à un mort, nous dit maître Renaud, pour qui l'on s'acharne parce qu'il s'agit d'un patronyme connu. Cette analyse est démentie par une source judiciaire proche du dossier qui rappelle d'une manière générale que les transactions avec le fisc n'annulent pas les procédures en justice. Un exemple récent, Patrick Balkany, dont le procès vient de s'achever. Au cours de ce procès, le maire de Levallois-Perret a d'ailleurs assuré qu'à une époque, tous les Français qui avaient de l'argent possédaient un compte en Suisse.
Frédéric Saïs avec Diane Berger. Il y a 3 mois, il quittait le gouvernement pour se consacrer à la campagne des municipales. Aujourd'hui, Mounir Majoubi retire sa candidature à l'investiture de La République En Marche à Paris. Et l'ancien secrétaire d'État au numérique apporte son soutien au député et mathématicien Cédric Villani. Comment expliquer ce revirement, Stéphane Robert?
Eh bien, on est à seulement quelques jours du dénouement et de la désignation de celui qui portera l'étiquette En Marche à Paris aux élections municipales. La Commission nationale d'investissement auditionnera les candidats à la candidature mardi prochain. Elle rendra sa décision dans la foulée, mercredi ou jeudi. Et à mesure qu'on approche de cette échéance, 2 favoris se détachent dans cette course à l'investiture. Benjamin Griveaux, ex-porte-parole du gouvernement et ami d'Emmanuel Macron, et puis le député et mathématicien Cédric Villani. Les choses se sont cristallisées depuis la publication d'un sondage le 20 juin dernier. Sondage qui plaçait les deux hommes à égalité s'ils étaient candidats. 25% d'intention de vote chacun, 4 points devant la maire sortante Anne Hidalgo. Dans cette enquête, l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi était nettement distancé. À 22% seulement, il avait dès lors très peu de chances d'être désigné. Il préfère donc jouer la carte du ticket avec celui dont il se sent le plus proche, Cédric Villani, ce qui lui permettra d'être dans l'équipe de campagne si celui-ci est investi et au-delà de décrocher un poste dans l'équipe municipale en cas de victoire. Pour Cédric Villani, c'est un ralliement important en vue de l'investiture. Benjamin Griveaux a répondu cet après-midi en faisant valoir qu'il avait, lui, le soutien du sénateur Julien Bargeton et des 2 députés de Paris, Olivia Grégoire et Sylvain Maillard. À quelques jours de l'investiture, la tension monte. Les deux favoris comptent leur soutien et montrent leurs muscles.
Stéphane Robert, une nouvelle génération de thérapies géniques contre les cancers arrive sur les marchés, des traitements au prix exorbitant que dénoncent Médecins du Monde. MDM s'était déjà mobilisée contre les prix des traitements contre l'hépatite C. Au nom de la défense de l'accès aux soins, elle entreprend une nouvelle action Tarache Legal avec une autre ONG, Public Eye. Elle introduit une opposition au brevet du Kymriah, un anticancéreux du laboratoire Novartis.
Les brevets permettent de protéger les innovations thérapeutiques pendant 20 ans. Celui qui couvre le Kymriah et qui a donc décidé d'attaquer Médecins du Monde est tout récent. Or, il n'a pas un caractère radicalement novateur, plaide MDM. Les recherches fondamentales qui ont permis de développer ces CAR-T-cells, recherches effectuées sur des souris, sont plus anciennes. Le brevet aurait donc été accordé de façon laxiste par l'Office européen des brevets. C'est sur cet angle-là qu'il est attaqué. Car une fois ce sésame délivré par l'Office, le laboratoire est en position de monopole pendant 20 ans donc. Et il peut négocier des tarifs qu'il veut. D'ailleurs, les firmes utilisent des arguments que réfute Théo Brigand, qui travaille sur le prix des médicaments pour MDM.
Par exemple, on dit que les traitements coûtent très cher à produire par personne. Effectivement, on est sur une thérapie extrêmement individualisée. Mais Dr Carl June, qui est l'inventeur du traitement CAR-T de Novartis, le Kymriah, dans une interview pour le New York Times il y a quelques années, vers 2012, estimait le prix de production de ces traitements à 20 000 €. 20 000 euros, là on est sur du 320 000 euros sur le prix. Donc il y a une différence
pour une personne.
Pour une personne. Donc la différence est monumentale.
Une différence qui s'expliquerait notamment par la rentabilité qu'exigent les actionnaires, dit l'ONG. En menant cette offensive, elle ne pense pas pouvoir faire tomber le brevet de Gilead et ouvrir la voie, par exemple, à des génériques, car le laboratoire a déposé deux autres brevets qui protègent de toute façon sa thérapie. Mais Médecins du Monde veut porter le débat sur la place publique, fournir un argument supplémentaire aux États qui négocient et dire surtout qu'à long terme, c'est intenable. Pour l'instant, le Kymriah guérit potentiellement 400 malades par an, mais des essais cliniques sont en cours pour bien d'autres cancers. Il serait alors impossible de garantir l'accès de tous à ces thérapies.
Tarache Legal, il y a un petit risque que certains candidats au bac n'aient pas leur résultat vendredi, reconnaît Jean-Michel Blanquer. Il y a deux jours, le ministre de l'Éducation assurait que la guerre des correcteurs n'aurait aucun impact. Certains enseignants font de la rétention de copies pour protester contre la réforme du lycée et du baccalauréat. Alors a-t-on une idée du nombre de personnes qui pourraient être concernées, Théo Conscience ?
Alors on attend toujours que le ministère communique officiellement sur le nombre de copies retenues. Mais ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'environ 15% des candidats sont concernés, selon le syndicat SNES-FSU. Dans certaines académies où la grève a été très suivie, comme à Toulouse, c'est même le quart des candidats qui pourraient se retrouver bredouille vendredi. Ce matin, le ministère de l'Éducation a annoncé que le délai de saisie des notes du baccalauréat, initialement fixé à mardi midi, est prolongé jusqu'à ce soir dans certaines académies. Et dans la foulée, Jean-Michel Blanquer parle d'un petit risque de retard pour certains candidats. Pourtant, certains éléments laissent penser que l'ampleur de ce retard pourrait être plus importante. À Lille, à Lyon, à Rouen, Toulouse et en Île-de-France, la grève et la rétention de copies ont été reconduites jusqu'à demain inclus. Sachant qu'une fois communiquées, les notes doivent être examinées par un jury, on voit mal comment les résultats du bac pourraient être rendus publics vendredi. D'autant plus que le syndicat SNESUP a appelé les jurys à ne pas se réunir en solidarité avec leurs collègues correcteurs.
Théo Conscience, tandis que les visiteurs se pressent à Paris pour voir l'exposition Toutankhamon, la maison de vente Christie's met aux enchères à Londres un buste vieux de 3000 ans représentant le dieu Amon sous les traits du roi Toutankhamon. Prix de départ estimé 4,5 millions d'euros. Mais l'Égypte tente de s'opposer à cette vente, Martin Roux.
Le Caire voit rouge et exige le rapatriement de ce trésor national, car selon des archéologues égyptiens, ce portrait de Toutankhamon provient d'un lot volé au temple de Karnak à Louxor dans les années 70, mais la maison Christie's dément et affirme que la propriété de l'objet est clairement établie, première vente attestée autour de 1973 par un collectionneur qui l'avait en sa possession depuis, dit-on, les années 60. Cette traçabilité est cependant loin d'être suffisante, estime quant à lui l'égyptologue Christian Leblanc.
La traçabilité de départ, elle est floue. Mais comment, par exemple, Christie's va aller vérifier ça? Ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas les compétences non plus. Donc ça veut dire que là, c'est très dangereux. Parce qu'à partir du moment où on met une pièce comme ça en vente sur le marché des antiquités, on encourage d'éventuels spolieurs ou voleurs, finalement, d'antiquités.
Si le vol de ce buste de Toutankhamon n'est aujourd'hui pas avéré, le trafic illégal d'antiquités est quoi qu'il en soit un dossier majeur pour le Caire. Près de 1500 objets volés ont ainsi été rapatriés au cours des 5 dernières années et les maisons de vente ne sont pas les seules épinglées pour leur négligence. En février dernier, le Metropolitan Museum de New York a restitué à l'Égypte un sarcophage doré vieux de plus de 2000 ans.
Martin Roux au Caire pour France Culture. Demain jeudi, Météo France prévoit du soleil et de la chaleur, quelques orages sur les reliefs. Les températures minimales s'échelonneront entre 9 et 24 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera 20 à 34 sur la moitié nord, 30 à 35 sur la moitié sud, voire 35 à 37 entre l'Hérault, le Gard et le Vaucluse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.